Saint-Esprit d'être vraiment présent et de faire ce travail essentiel de conviction et de volonté de mettre en pratique, d'écouter attentivement, de mettre en pratique ce que le Seigneur veut nous dire personnellement aujourd'hui encore. Seigneur, si nous n'avions que notre intelligence pour comprendre les paroles de la Bible, nous serions bien malheureux. Parce que tu nous as fait comprendre, Seigneur, que ce n'est pas avec notre intelligence qu'on peut comprendre ce que tu dis. C'est avec l'esprit que tu nous as donné, un esprit régénéré. Alors, Seigneur, qu'il se mette en route. Que toute notre attention, Seigneur, soit vraiment là pour nous conduire à comprendre la vérité, pour nous conduire à comprendre ce que tu veux nous dire personnellement. Seigneur, tu t'adresses pas à une foule, tu t'adresses à chaque cœur qui bat dans la poitrine. Et c'est ça, cette merveille, Seigneur, parce que tu as répandu ton esprit dans chacun des hommes et des femmes qui sont ici présents. C'est un avantage énorme par rapport au fait, lorsque tu n'étais pas encore ressuscité, tu étais à Jérusalem, mais tu n'étais pas à Bethléem. Alors que maintenant, Seigneur, tu es là, dans le cœur de chacun qui t'a reçu. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Amen. Voilà, je vais vous lire un passage très court, comme d'habitude, qui n'a rien à voir avec la fête, mais bon, la fête que nous fêtons, que nous devons fêter aujourd'hui, a été évoquée dans la liturgie, donc. Je passe à autre chose maintenant. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 3, 4 et 5. De Corinthiens, chapitre 10, verset 3, 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. À faire une exégèse ce matin de ce passage qui est tellement riche et qui va tellement au-delà de ce que vous pouvez entendre, que vous allez pouvoir entendre. Mais il n'empêche que ce que vous allez entendre rentre dans le cadre de ce que j'ai pu écrire. Alors d'abord pour vous dire que pour la au moins troisième fois consécutive, oui, c'est ça à peu près, je me suis servi du livre de Steve McVeigh qui s'intitule « Le règne de la grâce dans votre vie quotidienne ». C'est un livre d'une richesse exceptionnelle et quand les choses me touchent, j'ai envie absolument de les partager. Quel chrétien n'a pas eu d'horribles pensées lui traverser l'esprit? Il se demande alors comment cela est possible. Il a honte de lui. Il se sent coupable. Dans le meilleur des cas, il demande immédiatement pardon à Dieu. Mais malgré sa repentance sincère, ces circonstances peuvent le marquer et le faire douter de sa relation avec Christ, de le faire douter de son amour pour Christ. Ça évoque quelque chose en vous, ce que je viens de dire? Ou bien je suis le seul? L'histoire que je vais vous raconter est vraie. Elle a pour but de nous faire comprendre que prendre conscience de pensées impures ou coupables qui traversent notre esprit, ce n'est pas péché. Le chrétien est uniquement responsable de ce qu'il fait de ses pensées. Autrement dit, prendre conscience qu'on a de mauvaises pensées, c'est une chose qui peut certes nous faire mal et nous déstabiliser, mais ce n'est pas péché. Par contre, entretenir ces pensées et les laisser s'incarner dans des actes, c'est marcher selon la chair et produire les œuvres de la chair, comme vous pourrez lire dans Galates 5:19. Alors, voici l'histoire. Un jour, le pasteur Steve McVeigh raconte la chose suivante. J'ai reçu en entretien un homme qui luttait contre ce problème. Régulièrement, des pensées blasphématoires lui traversaient l'esprit. Il en était venu à croire qu'il avait commis le péché contre le Saint-Esprit, dont Jésus a dit qu'il est impardonnable. Matthieu 12, 32. Et pourtant, cet homme était chrétien. J'ai essayé de lui expliquer qu'il n'était pas forcément l'auteur de toutes ses pensées, mais il ne comprenait pas. Il y avait dans la pièce une autre personne qui assistait à notre entretien. Je me suis penché vers l'homme qui était venu me confier son problème et je lui ai dit à l'oreille, « Vous voyez, Jim, qui est assis là-bas, allez lui donner une gifle de toutes vos forces. » L'homme m'a regardé, perplexe, et j'attendais. Il est resté un long moment à me regarder. Je me suis de nouveau penché vers lui et pour lui chuchoter à l'oreille, « Allez donner une gifle à Jim avec une telle force qu'il en tombe de sa chaise. » Puis je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai attendu. Mon homme était complètement déconcerté. Alors je lui ai dit à haute voix cette fois-ci, « Alors, vous allez faire le pas ou non ?»« Non » a-t-il répliqué. « Alors dans ce cas, vous allez confesser à Dieu que vous avez eu une pensée horrible ?»« Non !»« Et pourquoi ne vous voulez-vous pas demander pardon ?»« Parce que c'est vous qui me l'avez demandé. »« D'accord !» Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Parfois, quelqu'un d'autre vous souffle aussi des choses, et là, vous vous sentez responsable. Ce quelqu'un d'autre peut très bien être l'ennemi de notre âme. Combien de fois nous sommes-nous demandés les uns et les autres si les pensées qui nous traversent l'esprit nous viennent de Dieu, de Satan ou de nous-mêmes. C'est un questionnement légitime pour un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu. Et il est donc important que nous comprenions l'origine de ces pensées. Pour un chrétien qui a une véritable relation avec Dieu, il est facile d'identifier les pensées qui viennent de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en contradiction avec le caractère de Dieu, et notamment sa justice, ou qui constitue une violation de sa parole, cela provient forcément de l'adversaire. Si nous sommes des chrétiens attachés à Dieu, si notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, L'apôtre Paul affirme que, je cite, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Il est donc évident que des pensées impures, des pensées de vengeance ou de mépris, ne viennent pas de nous. Elles ne viennent pas de notre esprit. Elles sont introduites dans notre âme de l'extérieur. Si je précise dans notre âme, c'est qu'il est important de comprendre que l'ennemi ne peut pas influencer notre esprit. Par qui ces pensées sont-elles introduites? Par notre ennemi. Il est extrêmement important de comprendre cela. Quoi? L'ennemi peut introduire des pensées mauvaises dans l'âme des hommes. Pourquoi dans l'âme des hommes? Parce que c'est là où se trouve le siège de la pensée de l'homme. Nous avons un exemple biblique qui nous montre la réalité de cela. Au moment où Jésus annonce à ses disciples que les chefs religieux vont le mettre à mort, le texte nous dit « Pierre prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, 22. J'imagine qu'à la place de Pierre, bon nombre d'entre nous auraient dit la même chose, parce que cela partait d'un si bon sentiment. Mais Jésus avait une toute autre vision de ce soi-disant bon sentiment. Le texte poursuit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc c'est le verset suivant, Matthieu 16, 23. Ce n'est pas un bon sentiment que Pierre a exprimé. C'est une pensée qui venait directement de Satan. Même si Pierre n'en avait pas conscience. Comprenons bien que Jésus ne s'adresse pas à Pierre lorsqu'il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Il s'adresse à l'esprit du mal qui est en train de vouloir influencer Pierre et à travers Pierre, Jésus lui-même. Si nous ne comprenons pas cela, nous pensons que Jésus a été très sévère avec Pierre et que la réflexion de Pierre n'était pas aussi grave que cela. Cela signifie aussi que nous n'avons pas compris le sens du mot « scandale ». Oublions le sens que la presse People donne à ce mot. Dans la Bible, un scandale, c'est un obstacle de nature à faire trébucher. Qu'est-ce qui était en jeu dans ce que Pierre disait à Jésus? Par les paroles de Pierre, Satan essayait de détourner Jésus de sa mission, de la mission que le Père lui avait confiée. C'est-à-dire, mourir en victime expiatoire pour le salut des hommes. On comprend mieux pourquoi Jésus a réagi de cette façon. Notre ennemi ne se lassera jamais d'essayer de détruire la relation entre Dieu et un chrétien. L'apôtre Pierre affirme ceci sans ambiguïté. Je cite 1 Pierre 5,8 « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi. » Voilà ce qu'écrit aussi le pasteur Veil. Je me souviens qu'à une époque, il arrivait qu'une pensée épouvantable me vienne tout à coup à l'esprit alors que j'étais en train de prier. Sans crier gare, un mot horrible surgissait dans ma tête, venu apparemment de nulle part. Alors je disais, ô Seigneur, pardonne-moi, comment ai-je pu avoir une telle pensée, surtout en priant? C'était vraiment un sale tour de la part de Satan. Il me soufflait une pensée, puis il me condamnait de l'avoir eue. Le pasteur poursuit, j'ai trouvé la liberté en réalisant que même si je suis entièrement responsable de la façon dont je gère mon activité mentale, ce n'est pas péché que d'entendre une mauvaise pensée dans son esprit. L'histoire que je vous ai racontée il y a quelques instants est l'illustration concrète et pratique de ce que je viens de dire. Il est donc salutaire d'en tirer une conclusion qui nous évitera beaucoup de tourments inutiles. Prendre conscience d'une pensée, même la pire, ce n'est pas péché. Un chrétien est uniquement responsable de ce qu'il fait de cette pensée. Il est donc important de comprendre l'origine des mauvaises pensées. Pourquoi ? Pour que l'ennemi ne puisse plus nous déstabiliser dans notre désir de communion avec Dieu. Le but de l'ennemi est de nous culpabiliser, d'essayer de focaliser notre attention sur lui par la peur que ses pensées nous inspirent. Au lieu de nous confier, quelles que soient les circonstances, à Christ, qui a répandu son esprit sur nous, qui a fait sa demeure en nous et qui nous permet de vivre de sa vie. Frères et sœurs, comprenons bien ce qui se passe en nous. Ce qui vient de notre être profond, c'est-à-dire ce lieu de la relation intime entre notre esprit et l'Esprit Saint, ne peut pas générer des pensées qui sont en contradiction avec ce que dit l'Écriture ou avec la sainteté de Dieu. Cela signifie que ces pensées impures, des pensées de vengeance, des pensées de mépris, de jugement, de colère, de supériorité, d'orgueil, de racisme, d'antisémitisme, et j'arrête là, ne peuvent nous être inspirés que par l'ennemi de notre âme. La première preuve que cela est vrai, c'est le malaise que nous ressentons lorsque nous avons ce genre de pensée. La seconde preuve que cela est vrai, c'est que ces pensées nous font horreur et que nous luttons pour qu'elles ne se transforment pas en actes. Que devons-nous faire lorsque nous sommes aux prises avec ce genre de situation? Rien, sous prétexte que ces pensées ne viennent pas de nous? Non. Ce serait tolérer les manœuvres de l'ennemi qui cherche à nous déstabiliser. Nous ferons ce que Paul faisait. Il combattait avec les armes de l'esprit pour renverser les forteresses, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à Dieu. Je cite, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Ne tolérons jamais les pensées que l'ennemi nous souffle, ni les pensées éclairs qui ne durent que quelques secondes, ni celles qui peuvent durer des heures, des jours, ou des années. En effet, tolérer ces pensées, c'est prêter le flanc à l'ennemi qui cherche à détruire notre relation avec Christ et à nous entraîner dans le péché. Même si ce n'est pas péché d'entendre des mauvaises pensées qui nous assaillent, nous sommes responsables de la façon dont nous gérons notre activité mentale. Ne tolérons pas que notre âme abrite les pensées de l'ennemi. Saisissons par la foi l'autorité que Christ nous a donnée en son nom et chassons donc ces pensées dans le nom de Jésus. J'espère que nous sommes bien tous ça au clair avec l'autorité que Jésus nous a donnée en son nom. Mais surtout, pas mais surtout, et surtout, prenons autorité le plus tôt possible. Ne laissons pas ces pensées nous pourrir la vie. Il s'agit d'un combat spirituel avec des enjeux spirituels. Plus vite nous livrerons son combat, plus vite nous retrouverons la paix et la communion avec Christ. Après avoir abordé le problème des pensées qui viennent de l'ennemi, comment pouvons-nous reconnaître si les pensées viennent de Dieu ou de nous-mêmes? Alors je vais mettre à part les paroles de connaissance, les paroles de science, les prophéties et le discernement des esprits qui sont, comme nous le dit Paul dans 1 Corinthiens 12, qui sont des dons de l'esprit. Dans ces cas-là, Dieu parle directement à l'esprit du chrétien par l'intermédiaire de l'intuition. Je rappelle que l'intuition est une des trois parties de l'esprit de l'homme, avec la conscience et la communion. Cette intuition permet aux chrétiens de connaître, pas seulement de comprendre, de connaître ce que Dieu veut lui communiquer, et ceci sans le secours de son intelligence. C'est ce qui se passe lorsqu'un chrétien exerce un don de l'esprit. Dieu ne parle pas à son intelligence, mais à son esprit. Et pendant la scène, nous avons vu un exemple de cela. Mais qu'en est-il des pensées communes? Si la pensée qui nous vient de l'esprit n'est pas en contradiction avec la Bible et la sainteté de Dieu, nous pouvons considérer qu'elle vient de nous. En effet, quand nous demeurons en Christ, nous pouvons avoir confiance que nos pensées sont aussi la pensée de Jésus. Cela signifie que Jésus exprime ses pensées et ses œuvres à travers notre personnalité individuelle, accomplissant ainsi la volonté de Dieu en nous. Si nous demeurons en Christ, nous pouvons faire confiance à nos pensées et agir avec résolution dans la vie. Le fait que nous puissions avoir des doutes ne veut pas dire que nous n'agissons pas avec foi. Inversement, si la décision que nous avons à prendre ne laisse aucune place au doute, cela veut dire qu'elle ne requiert pas un acte de foi. Pour accomplir la volonté de Dieu, il suffit de demeurer en Christ, puis d'agir avec assurance, et Dieu se chargera du reste. Faut-il en conclure que nous sommes infaillibles dans notre capacité à faire des choix? Non. Néanmoins, nous ne devons jamais nous laisser paralyser par le risque de nous tromper. Dans la mesure où nous nous en remettons au Saint-Esprit qui habite en nous afin qu'il nous guide, il interviendra à chaque étape où nous pourrions involontairement nous égarer. Nous pouvons compter sur lui pour nous garder de faire un choix qui ne serait pas le bon. Il y a une condition à ce que notre Père dit. Je répète le début de la phrase, dans la mesure où nous nous en remettons au Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ce qui s'est passé pour Paul et Barnabas. Le texte Actes 16, 7 nous dit « Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils se préparaient à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Et l'Esprit Saint est intervenu en leur disant « Non, c'est pas là que je voulais. » Le chrétien est ainsi délivré de la crainte de commettre une erreur. Vous savez, cette crainte qui paralyse. « Ah, je ne sais pas ce que je dois faire, donc je ne fais rien. » Le chrétien est ainsi délivré de la crainte de commettre une erreur. Si nous ne comprenons pas cela, nous avancerons de manière hésitante. À l'inverse, la certitude que l'Esprit de Jésus veille à ce que nous demeurions dans la volonté de Dieu, cela nous permet de franchir des étapes avec enthousiasme et de nous réjouir à l'avance de ce qui va arriver. Ne craignons pas de nous égarer. Choisissons simplement de compter entièrement sur lui pour guider nos pas. Et puis, avançons, lançons-nous dans la foi. Agis, Seigneur, pour que nous comprenions ceci, mais pas superficiellement, profondément. Agis, cher Seigneur, pour que nous puissions mettre en pratique ce qui vient d'être dit.